Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. 7 mai 2017, il est 20h. Alexandre Jardin est élu président de la République. Il obtient 51,3% des suffrages contre 48,7% pour Sylvia Pinel. Et pour une fois, les derniers sondages avaient vu juste. Bon, d'accord, tout ceci est absurde. Ni le candidat du mouvement bleu-blanc-zèbre, ni celle du parti radical de gauche n'ont la moindre chance d'accéder au second tour. Bah, ou alors une toute petite chance, n'insultons pas l'avenir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Qui, en effet, aurait imaginé que François Hollande renoncerait à sa propre succession, que Nicolas Sarkozy serait éliminé dès le premier tour de la primaire de droite, que Cécile Duflot subirait le même sort chez les écologistes? Qui aurait imaginé les candidatures de Vincent Peillon et de Michel Alliot-Marie dans cette compétition? Depuis la mi-octobre, la campagne présidentielle a pris l'aspect d'un week-end de chassé-croisé sur l'autoroute des vacances, avec d'un côté les grands départs et de l'autre les grands retours. Alors, présidentielle 2017, et maintenant, est-ce que c'est plus clair? Eh bien, nous allons essayer de faire un point route ce soir avec trois membres du club. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Producteur de la suite dans les idées sur France Culture chaque samedi à 13h30. Ludivine Bortigny, bonsoir.
Bonsoir.
Historienne, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Rouen. Et Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant, vous dirigez le cabinet de conseil Footprint Consultant.
On avait tout envisagé chez Cécile Duflot. Un score moyen, une éventuelle deuxième place. Mais ça, non. Une élimination dès ce soir avec moins de 25% des voix.
Sa candidature est donc officielle. L'espérance, l'optimisme et l'émancipation, c'est au nom de ces valeurs qu'Emmanuel Macron a lancé sa course à la présidentielle.
Exit Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État a été éliminé hier dès le premier tour de la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle.
C'est donc François Fillon, très net vainqueur de la primaire de la droite face à Alain Juppé. C'est lui donc le champion de son camp à l'élection présidentielle de 2017.
La décision est aussi historique qu'inattendue. Hier soir, François Hollande a annoncé qu'il renonçait à briguer un deuxième mandat.
Lui, en tout cas, est candidat à l'élection présidentielle. C'est l'écrivain Alexandre Jardin, fondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre, issu de la société civile. Il s'est déclaré dans l'émission politique de France Info ce matin.
Un candidat de plus à gauche, Manuel Valls, s'est déclaré pour la présidentielle ce soir depuis son fief d'Evry dans l'Essonne.
La politique en France avec une de plus sur la ligne de départ, sans passer par la case primaire. Michel Alliot-Marie, ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, a annoncé sa candidature à la présidentielle hier. Elle l'a fait savoir sur le site 20minutes.fr.
Voilà, et tout ça, et ça n'a rien d'exhaustif, ça s'est passé entre le 19 octobre dernier et le 8 décembre, c'est-à-dire hier, le 19 octobre, donc l'élimination de Cécile Duflot. Le 8 décembre, la candidature de Michel Alliot-Marie. Je vous voyais sourire quand je faisais mon introduction, Philippe Manière, l'évocation d'un deuxième tour entre Alexandre Jardin et Sylvia Pinel. C'était quoi? C'était un sourire sceptique? Ou c'était parce que vous n'y aviez pas songé encore?
Je vous cacherai pas que j'avais pas encore songé, c'est vrai, mais vous avez raison. Enfin, on est payé pour savoir maintenant qu'il faut essayer d'être prudent dans les pronostics. Pour répondre à la question sur le degré d'incertitude après ces événements, moi je suis frappé d'une chose, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre d'incertitudes qui étaient très nombreuses, il y a seulement un mois et demi, deux mois, qui se sont résolues aujourd'hui. Le plus spectaculaire, c'est évidemment à droite, où il y a un candidat de droite, bon, qui a même été très largement élu, donc il sera le candidat de la droite. Il y aura peut-être des petits candidats type Michel Alliot-Marie, mais il y aura un candidat de droite. Bon, il y a quelques autres éléments de certitude. Par exemple, on sait que ceux qui ont été battus ne seront pas candidats, c'est clair. Mais symétriquement, il me semble qu'il y a une incertitude dont on ne parle pas
assez. Est-ce qu'on en est bien sûr, ça
écoutez,
aussi.
Oui, je pense qu'on peut le dire, mais enfin, faut être prudent. Alors, on ne va pas le dire toute la soirée, soyons prudents. Tout ce qu'on dit doit être connoté avec une espèce de petite réserve. On ne sait jamais. D'accord, on ne va pas le dire tout le temps, mais faut être prudent. Mais normalement, il y aura un candidat de la droite, ça sera François Fillon, puis il y aura peut-être un ou deux petits candidats avec des chances très 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 limitées, type Michel Alliot-Marie. Et encore, on n'est pas sûr qu'elle aille jusqu'au bout de sa démarche. Il me semble symétriquement qu'il y a une incertitude nouvelle dont je trouve qu'on ne parle pas assez, qui était en fait la seule certitude qu'on eut il y a seulement deux mois. Il y a deux mois, vous vous souvenez, on ne savait rien sauf une chose, en tout cas tout le monde pensait que c'était acquis, c'était la présence à coup sûr de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Eh bien moi, il me semble que les événements récents devraient nous amener à reconsidérer cette hypothèse, non pas évidemment qu'elle ne soit pas encore solide, mais je pense qu'il y a d'assez bonnes raisons de se dire que il est possible que ce soit différent et qu'en fait la seule certitude qu'on avait il y a seulement deux mois, bien se soit évaporée au fil des évolutions récentes. Je m'explique, François Fillon est très fort à droite et sur une ligne qui est assez à droite et qui sans doute lui permet de piquer quelques points au vote Front National, non pas le cœur de vote Front National, mais disons cette droite qui hésite toujours un peu entre les Républicains et le Front National. Puis symétriquement, on voit un Mélenchon qui prospère et qui, même si les passages sont pas forcément directs, lui aussi va chercher des électeurs qui veulent exprimer un vote de refus. Et donc, je suis très 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 prudent, mais je pense que la probabilité que Marine Le Pen soit au second tour est plus faible qu'elle n'était et que du coup, c'est une incertitude supplémentaire.
Donc il y a un mélange d'éclaircissement parce que le paysage politique, en tout cas à droite, c'est un peu justement éclairci avec les résultats de la primaire, Sylvain Bourmeau, et peut-être la montée de nouvelles incertitudes liées notamment d'ailleurs, sans doute que ça a eu un impact sur la multiplication des candidatures à gauche, au renoncement de François Hollande.
Oui, j'allais y venir parce qu'il y a une autre certitude dont Philippe Magnin n'a pas parlé, c'est le fait que François Hollande ne sera pas candidat. C'était pas la moindre des incertitudes.
J'aurais dû, oui.
En effet, c'est quand même la nouvelle la plus importante de ces derniers jours.
Mais elle ouvre beaucoup d'incertitudes à gauche.
Elle ouvre des incertitudes, mais c'est une certitude désormais, il ne sera pas candidat. On ne savait pas. Et c'est quand même, du point de vue historique, un événement, puisque on sait que traditionnellement les présidents de la République, sauf quand ils sont morts avant, se sont représentés au scrutin suivant pour un deuxième mandat. Parfois ils ont échoué, plus souvent ils ont réussi. Et là, François Hollande n'a pas pu, en fait, pour une raison qui me semble, pour des tas de raisons, mais pour une raison nouvelle qui me semble importante de souligner, qui a à voir avec l'institutionnalisation de la primaire. C'est-à-dire que la gauche a commencé en 2012 la dernière fois, enfin 2011, la droite s'est trouvée un peu obligée d'imiter la gauche pour produire un effet de mobilisation en vue de gagner l'élection présidentielle. En tous les cas, c'est comme ça qu'elle a vu les choses. Et je dirais que cette forme d'institutionnalisation de la primaire a fait que François Hollande s'est vu imposer le fait que, alors au début, vous vous rappelez, on entendait des gens qui nous disaient, mais enfin, un président sortant, on peut pas se présenter à une primaire, mais enfin, aux États-Unis, ça se passe pas comme ça. Sauf que si, aux États-Unis, ça se passe comme ça, il y a toujours des primaires. Et donc, cette logique très forte a fait que, s'il voulait y aller, il était obligé de passer par la case primaire. Autrement, ça aurait été extraordinairement coûteux pour lui. Et donc, devant cette situation, il a préféré renoncer à cette case parce qu'il avait très très peu de chance, estime-t-il sans doute, de gagner cette primaire. Donc ça, c'était une aspect d'incertitude. Je voulais rebondir sur ce que disait Philippe Manière parce que je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse qu'il fait sur le Front National. C'est-à-dire que je ne pense pas du tout que, d'une part, la candidature de François Fillon soit à même de récupérer beaucoup de voix sur le Front National. Je pense qu'au contraire, un profil comme celui de Nicolas Sarkozy était plus à même parce qu'il était capable, on l'a vu en 2007, de toucher des gens qui s'intéressent peu à la politique, qui sont peu diplômés par exemple, à cause de son style politique, pas tellement à cause de ses positions politiques. Et je pense que les électeurs du Front National seront assez peu sensibles au style politique de François Fillon. Le deuxième élément, je pourrais développer, mais arrêtons-nous là. Le deuxième élément, c'est par rapport à la capacité de Jean-Luc Mélenchon de récupérer des électeurs qui seraient perdus du côté du Front National, d'anciens électeurs de gauche qui seraient davantage, des électeurs contestataires qui se retrouveraient chez Mélenchon. J'en doute et je veux pour preuve ce qui s'est passé quand Monsieur Mélenchon, fort de son ego, s'est dit « je vais aller remontrer à Madame Le Pen, à Hénin Beaumont, ce dont je suis capable ». Il s'est fait battre à plate couture à Hénin Beaumont et je pense que il sera nationalement exactement dans la même situation. Donc moi, je redoute, pour le dire avec mes mots, le score très élevé du Front National à cette prochaine élection.
Alors vous, Ludivine Bantini, quel regard est-ce que vous portez sur cette séquence dans laquelle beaucoup de choses déjà ont été dites, mais c'est vrai qu'il y a une profusion de surprises entre l'élimination de certains qu'on voyait quand même se présenter l'année prochaine à la présidentielle, l'arrivée de candidats qui a priori n'étaient pas censés l'être cette année, d'Emmanuel Valls, et puis des retours un petit peu plus inattendu de gens qu'on avait presque fini par oublier, en tout cas dans le débat politique, comme Vincent Peillon, comme Michel Alliot-Marie. Qu'est-ce que vous retenez, vous, en tout cas, de cette séquence-là?
Oh, je ne voudrais pas jouer les rabat-joie par rapport à nos petites jouissances devant le spectacle de ces personnalités qui, les unes et les autres, défilent pour présenter leur candidature. Rabat-joie non plus par rapport à, justement, cette idée de surprise et d'incertitude. Moi, pour reprendre votre métaphore, puisque vous nous invitez à faire un point autoroute. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être sur dans la monotonie d'une autoroute à péage, certes. Alors, on s'arrête de temps en temps, mais au fond, quelle surprise dans tout ça. C'est-à-dire que François Hollande, enfin que François Hollande ne se présente pas. Enfin, je sais pas, c'est pas du tout une surprise, parce que quand on a une cote de popularité aussi basse, quelle légitimité pourrait-il y avoir? Enfin, la surprise aurait été qu'il se présente, justement. Enfin, ça aurait été vraiment un scandale politique absolu, me semble-t-il, et quels que soient les précédents.
Tout scandale
n'est
pas surprenant.
Les précédents historiques. Non, mais voilà. Donc, bon, ça, c'est la première chose, parce que.
C'est la cote de popularité qui, pour vous, fait la légitimité, ou c'est le bilan plutôt?
Absolument pas, parce que c'est cote de popularité, évidemment, elle mesure une profonde déception, des promesses en veux-tu en voilà, qui ont évidemment été oubliées dès les premières semaines du gouvernement de Hollande Hérault, puis du gouvernement Hollande-Valls. Bon, voilà, moi, le constat qu'on peut faire quand même, je pense qu'il faut le rappeler avant de venir, je pense que c'est quand même aussi important qu'on entre dans le détail du programme, au-delà de ce défilé de stars, de vedettes d'être plus ou moins médiatisé. L'ego, alors je ne me reconnais pas dans la candidature Mélenchon, hein, je tiens à le préciser, mais je veux dire, quand on parle de l'ego de Mélenchon, enfin, je ne vois pas pourquoi on insiste davantage sur Mélenchon en termes d'ego que tous les autres qu'on a cités, qu'on a entendus dans le petit...
Non, juste là-dessus, voilà. C'est ce mais, type d'ego qui avait conduit Bernard Tapie, oui, aussi à prendre des gants de boxe, etc. C'est-à-dire, oui, cette façon de se poser en duel.
Là,
c'est ça dont je parlais.
Écoutez,
non,
exactement. Si, je vais vous... sur ce point, par exemple, on a déjà parlé à propos du débat sur la primaire. Moi, ce qui m'avait frappé, c'était les commentaires médiatiques. Ils disaient « Ah là, il y a eu du fight, ah là, il a mordu les mollets, etc. » Voilà, c'est ça, le petit spectacle du petit égocentrisme de ce petit milieu politique-là. Moi, je pense qu'il faut quand même repartir du constat qu'on est face à une immense crise de légitimité, immense crise de capacité politique, tout simplement, que le politique, il est de plus en plus ailleurs, que face à cette crise de légitimité, il y a un surcroît d'autorité, voilà, un surcroît de manière de gouverner d'une façon très autoritaire, avec des pans entiers qui échappent désormais de plus en plus à la démocratie. Le recours au 49-3 nous l'a encore prouvé. Voilà, donc ça, c'est quand même un constat de départ. Ensuite, par rapport à ce défilé d'individus, c'est pas uniquement l'institutionnalisation de la primaire, même si ça en fait partie. Je pense que c'est tout simplement le régime et les institutions de la Ve République qui poussent à cette personnalisation à outrance. Donc, au-delà de ces petites querelles de personnes qui sont pas très intéressantes, il faut en arriver en effet au programme, à la discussion sur le fond.
Et justement, avant d'arriver au programme et de voir comment aussi on peut essayer de se déterminer par rapport à l'offre pléthorique, toujours, même si, comme vous le disiez, Philippe Manière à droite, ça s'est quand même bien éclairci de candidature, je voudrais quand même qu'on prenne encore les 2-3 minutes pour marquer la fin quand même d'une séquence assez impressionnante, c'est-à-dire que les candidats qui étaient au deuxième tour en 2012, François Hollande et Nicolas Sarkozy, ne seront pas présents en 2017. Ils ne seront pas présents en 2017, non pas parce qu'il y a eu une opposition plus forte dans l'autre camp, mais parce que leur propre famille politique a considéré qu'ils n'étaient pas aptes à mener ce combat. Est-ce que là aussi, on est dans une forme de crise de la légitimité, Philippe Manière?
Moi, je crois pas. Enfin, je suis complètement d'accord avec Ludivine sur le fait qu'on a un problème de démocratie représentative en bout de course. On l'a déjà évoqué au fil des émissions passées. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais je crois que là, c'est un phénomène qui est très différent. Hein. C'est juste que ces gens-là ne parlent plus d'une manière suffisamment convaincante, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Hollande, à leur électorat respectif. C'est une coïncidence, en quelque sorte. Hein. Alors, s'agissant...
Ça n'est qu'une coïncidence, vous pensez?
Moi, je crois. Enfin, on aurait pu imaginer que François Hollande, ayant conduit une politique qui, d'une manière ou d'une autre, satisfasse une partie du pays, soit en situation de se représenter. Et il ne l'a pas fait. Et c'est intéressant. Il faudra y revenir, d'ailleurs, parce que moi, c'est très instructif, me semble-t-il, pour les candidats, là, cette année, enfin, en 2017, de voir pourquoi François Hollande a déçu tout le monde. C'est parce qu'en fait, il a fait ce qu'il fait toujours, de toute éternité, et comme personne, c'est une forme de motion de synthèse. Il a fait tout et le contraire, il a promis tout et le contraire. Donc, vous n'avez personne parmi les libéraux qui pense qu'il faut réformer et que le PS doit urgemment faire son bad Godesmer qui est satisfait parce qu'il a quand même eu les 75% et le matraquage fiscal. Et vous n'avez personne parmi ceux qui avaient entendu dans le discours d'Hollande une espèce de promesse que demain ce serait différent et qu'on allait s'arracher à je ne sais quoi, le capitalisme, la fatalité, l'attraction terrestre. Et personne non plus qui est satisfait. Et donc à l'arrivée, je pense que c'est une leçon que doivent tirer les candidats cette année, à droite comme à gauche, c'est si on veut réussir, il faut annoncer quelque chose d'assez clair et explicite, et plutôt le faire.
Sylvain Bourbon.
Non, moi je suis pas d'accord avec Philippe sur l'interprétation de la sortie au fond de deux anciens présidents que sont François Hollande et Nicolas Sarkozy. Je pense que la chose la plus importante, qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on parle de politique en France, mais je pense que ça dépasse assez largement la France, même s'il y a des situations très différentes à l'étranger, c'est la chose suivante, c'est que depuis 1978, il y a systématiquement eu alternance lors des scrutins nationaux en France.
2007, on peut discuter. Enfin, 2002.
Non. Pourquoi il y a toujours eu des périodes de cohabitation? Enfin, oui. Après, il y a eu la droite à enchaîner
des remélanges présidentielles et législatives.
Oui, hein, si on mélange les circuits, en fait, à chaque fois qu'une occasion se présente ou presque de sortir une majorité, elle est sortie. Bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? La seule nouveauté, c'est qu'il y a des primaires et donc la possibilité de sortir. Les sortants est antérieure, elle arrive plus tôt et c'est exactement ce qui s'est produit et elle s'applique aussi aux sortants de la dernière fois en l'occurrence avec Nicolas Sarkozy. Mais pourquoi? Parce qu'on est quand même dans un système politique et ça, il y a une spécificité française qui est un drame et qui aggrave la crise de la représentation qui a lieu dans toutes les autres démocraties par ailleurs, qui a trait à la longévité des carrières politiques. J'ai appris hier soir que Monsieur Gérard Batte, vous savez, ce député socialiste de Haute-Garonne, qui par ailleurs fait des voyages diplomatiques pour le moins étranges parfois, ce monsieur s'est fait réinvestir pour un 9e mandat aux législatives par le Parti Socialiste. Il a été élu la première fois en 1978, il a 70 ans. Comment voulez-vous que la politique dans ce pays se porte correctement quand on a des comportements comme cela? À chaque fois, les électeurs, à chaque fois qu'ils en ont la possibilité, les électeurs sanctionnent des gens qui ont exercé le pouvoir et qui n'ont pas mené les politiques satisfaisantes à leurs yeux.
Vous n'allez pas proposer des primaires pour les législatives?
Ah,
en
mais
plus.
Si. Ah si, je pense qu'il faudrait, comme aux États-Unis, élargir. Et je pense qu'on y va. Je pense que c'est inéluctable, qu'on va vers ça. Ça prendra peut-être encore 5 ans, 10 ans. On va aller vers des primaires pour les législatives, pour les municipales, pour chaque type d'élection, exactement comme c'est le cas aux États-Unis.
Et je pense on va passer notre temps dans les bureaux de vote.
Mais oui, mais je pense que c'est. Ben, peut-être que c'est une manière de. On le voit bien d'ailleurs, parce qu'on a 3-4 millions de Français à gauche, 3-4 millions de Français à droite.
La politique voilà, absolument. Par cet intermédiaire.
Et des gens qui se réapproprient la politique et que ça va renouveler, espérons-le, la classe politique. Et peut-être qu'on réglera, on commencera de régler un certain nombre de problèmes.
Est-ce qu'au moins ça a cette vertu-là à vos yeux, Divine Martini, de permettre justement de renouveler et le personnel politique et aussi de redonner peut-être envie aux gens de faire de la politique, de s'intéresser à la politique?
Oui, je ne pense pas du tout que le problème soit l'âge du capitaine, enfin si je peux me permettre.
C'est pas l'âge, c'est 9 mandats. Mandat est à 70 ans, il n'y a aucun problème.
Si je peux juste dire un mot à ce sujet, c'est-à-dire que sortir les sortants, de toute façon, ça c'est vrai que c'est en train de se produire, mais pour quels entrants? Enfin, ou prétendus entrants. C'est-à-dire que, donc, on a balayé François Hollande, tant mieux. Mais c'est pour avoir qui d'autre? C'est les deux piliers de ces gouvernements. C'est-à-dire, d'un côté, Macron, de l'autre, Valls. Donc, c'est un prolongement.
Enfin, on peut pas reprocher à Macron d'être un grand ancien de la politique.
Il n'y a pas que.
En fait, justement, précisément, si vous me permettez d'aller jusqu'au bout de mon petit argument, c'est que, l'orage, voilà, vous serez satisfait parce que ce sont ce qu'on appelle de jeunes loups aux dents longues et aux crocs en effet acérés, hein, qui nous proposent une politique à la fois sécuritaire, identitaire, extrêmement autoritaire et dans le prolongement de la politique de régression sociale dont tout le monde a pu constater qu'elle était vraiment pas du tout sociale justement et ça a mis beaucoup de gens dans la rue et ça va continuer à le faire je pense, quel que soit le candidat, qu'il s'agisse de Macron, de Valls ou de Fillon, qui sort finalement du chapeau. C'est-à-dire quand on voit le programme, voilà, j'ai les quatre mesures de Macron sous les yeux. Le grand problème de la société française, c'est qu'il y a des insiders qui ont un CDI. Donc, genre, par exemple, mon père, qui est facteur, c'est un insider parce qu'il a un CDI et c'est lui le grand problème de la France parce que les autres sont des précaires et c'est ça qui va pas. Donc, il faut, justement, un nouveau SMIC jeune, un peu plus de précarité encore, comme on a, enfin, comme si on n'en avait pas eu assez depuis les travaux d'utilité collective jusqu'au CPE en passant par les emplois jeunes, etc. Ce que monsieur Macron appelle sécuriser la rupture, hein, j'aime bien les euphémismes de tous ces éléments de langage, sécuriser la rupture, c'est-à-dire, on peut licencier à peu près comme on veut, mais, voilà, on va nous dire que c'est sécurisé, la retraite flexible, etc. Enfin, et c'est ça qu'il appelle une aventure de refondation politique. C'est-à-dire, c'est vraiment des vieilles recettes comme on en connaît depuis plus de 40 ans. Et sous les dehors du modernisme, sous les dehors extrêmement séduisants, enfin je ne suis pas pour ma part du tout sensible à son charme, mais de ce profil de jeune cadra absolument irrésistible.
Mais hein. si Macron était moderne, il se présenterait à la primaire. Enfin, je veux dire, il n'y a pas plus nouveau, il n'y a pas plus innovant dans la politique française que la primaire. Il tient un discours de célébration de l'innovation en permanence et il fait de la politique comme on en faisait dans les années 70, c'est-à-dire qu'il devient candidat par la grâce des couvertures des hebdomadaires et des sondages. Donc,
c'est pas ça la politique. Le problème, c'est que quand vous dites que les gens se réapproprient la politique, mais oui, ils le font, mais pas comme ça. Enfin, je veux dire, elle est demandée, par exemple, aux gens qui sont dans la vallée de la Roya et qui essayent de. Qui s'organisent politiquement pour défendre les migrants. C'est ça la politique, hein, c'est ça. C'est s'organiser, créer des associations, créer des
mais bien voilà, évidemment, là, on parle et de eux, l'élection présidentielle. Je résume pas la politique à l'élection présidentielle.
Mais moi,
on parle de l'élection présidentielle.
Je veux bien.
Moi, je veux bien qu'on parle de politique plus largement, mais c'est pas le sujet.
Ben si, quand même, parce que justement, on peut aussi se décaler en se disant qu'il y a cette élection présidentielle et la primaire, etc. Mais c'est pas ça, c'est pas.
Mais
c'est
nous
pas
sommes
le
d'accord.
Fait que, voilà, et ces gens-là, les gens qui sont en train de mener ces politiques-là au quotidien, mais qui sont de grandes politiques, ce sont des gens qui sont pourchassés, qui sont vraiment parce qu'ils soutiennent des migrants de manière clandestine et illégale.
Enfin, voilà. Alors, Ludivine Martigny.
Je pense que c'est quand même important d'en parler quand on discute de grandes politiques. Pour moi, c'est ça la grande politique. Et je peux très bien. On peut parler, allons-y, parlons des programmes de messieurs Macron.
Alors, justement, essayons justement d'avancer un petit peu, si vous le voulez bien. De toute manière, effectivement, ce sont des sujets importants, mais qu'on le veuille ou non, d'une certaine manière, la primaire à gauche aura lieu et l'élection présidentielle aura lieu au printemps prochain. Il va donc y avoir une compétition donc de la belle alliance populaire qui va être organisée au mois de janvier pour essayer de déterminer qui sera le candidat de la gauche. Alors c'est vrai que pour l'instant, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ne souhaitait pas y aller. Jean-Luc Mélenchon non plus. Tiens, petit quiz. Non, je ne vais pas faire un quiz parce que si je dis ça, je sens que le regard noir de Ludivine Bontini va s'abattre sur moi.
Non,
en tout cas, est-ce que parmi vous... Mais non, mais je sais, je vous taquine. Est-ce que d'abord, vous seriez capables, les uns et les autres, de dire ce soir qui est candidat à moins d'une semaine de la clôture des candidatures pour cette primaire à gauche, Philippe Manière?
Non, sincèrement, j'ai quelques noms en tête, mais je sais ceux qui n'y sont pas candidats. Et vous l'avez dit, c'est à mon avis le plus important. C'est Macron et Mélenchon qui vont chacun à sa manière menacer le candidat qui sortira de la primaire. Mais à la primaire, on sait que Valls est candidat, on sait que Montebourg est candidat, et puis il y a quelques candidatures possibles. Alors, vous savez, c'est très compliqué.
On sait aussi que Benoît Hamon est candidat.
Que Marie-Noël Lindemann ne l'est plus. Ça date d'il y a quelques minutes.
C'est tout frais, mais elle l'était sans l'être vraiment. Bon, elle ne l'est plus.
Que Pierre Larrouturou, qui voulait l'être, n'a pas le droit parce que le comité d'organisation de cette primaire lui... a considéré qu'il ne faisait pas partie de la famille. Voilà.
Mais alors après, il y a par exemple Gérard Filoche, il y a un certain nombre de petits candidats dont on ne sait pas s'ils auront les parrainages. Parce que la dernière fois que quelqu'un m'a entretenu savamment sur le sujet, je me suis endormi avant la fin, c'est très compliqué. On peut avoir un certain nombre d'élus représentant un certain nombre de fédérations dans les départements, etc. Donc il y a plein de manières de recevoir les parrainages, c'est pas très clair. Et je pense que personne ne peut dire à l'avance qui aura ses parrainages. Sauf bien sûr, Valls les aura, Montebourg les aura, probablement Hamon. Pour les autres, on ne sait pas bien. Donc voilà où on en est. C'est assez incertain.
Et une fois que ça sera clarifié, est-ce qu'on aura, à votre avis, un choix un peu clair, c'est-à-dire de se dire, on a le choix entre telle gauche ou telle gauche.
Clairement, les deux grands candidats à ce stade, ce seront Manuel Valls et Arnaud Montebourg, et ils incarnent très clairement les deux gauches, si on veut bien. Alors pas exactement, parce que Valls c'est pas tout à fait la deuxième gauche, mais enfin voilà, c'est un peu ce qu'il veut faire entendre. Et puis de toute façon, il sera un peu obligé d'être plus raide que ce qu'il est naturellement, parce que en face il y aura Fillon et que la gauche ne peut gagner qu'en faisant de Fillon un épouvantail. Mais malgré tout, il incarne la deuxième gauche. Et puis Montebourg, c'est la gauche. Alors pour le coup, c'est la première gauche qui revient en quelque sorte. Hein, c'est les vieilles thématiques qu'il avait mises au goût du jour il y a quelques années et qui reviennent de démondialisation, etc. Et puis il est sur une posture vraiment sociale. Et donc on aura clairement une compétition principalement entre ces deux-là, qui est d'ailleurs très ouverte. Hein. Les chiffres donnent à penser qu'il faut être bien, faut être prudent pour, si on veut formuler un pronostic sur la fin de sur l'issue de cette primaire.
Même s'il y a 6 ou 7 candidats, en tout cas on peut dire qu'il y aura une alternative assez claire lors de cette primaire, Sylvain Bourmeau.
En tous les cas, il me semble qu'il y a un clivage évident. Il y a une autre inconnue, qui est l'éventuelle candidature de Vincent Peillon, dont on parle. Attendons, c'est pas certain qu'il soit candidat, on verra. S'il l'est, en tous les cas, personnellement, je le rangerais plutôt du côté de ses anciens alliés que sont Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Et donc, on a en gros un ensemble représenté...
Là, vous êtes sur le terrain des idées, on est d'accord.
Oui, on est sur le terrain des idées. Ils ont signé ensemble un livre programmatique. Donc, je pense qu'encore aujourd'hui, chacun des trois est largement sur ces bases-là, au plan intellectuel, au plan programmatique. Donc, Montebourg, Hamon, Payon, et puis on a Valls de l'autre côté. La différence, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement orthogonal. C'est-à-dire que je crois pas qu'on puisse encore raisonner avec les histoires des deux gauches. Je pense que la deuxième gauche, façon Rocard, elle n'existe plus en tant que telle et que Manuel Valls ne représente pas, n'incarne pas du tout cette deuxième gauche, notamment dans ses rapports à la société. Je veux dire, Michel Rocard n'est pas quelqu'un qui a été autoritaire. Au contraire, c'est un jacobin, c'est un décentralisateur, c'est quelqu'un qui a été empli de l'autogestion véritablement du PSU, ce qu'on trouve absolument pas, ce qu'on n'a jamais vu chez Manuel Valls.
Les circonstances ne sont pas les mêmes.
Donc, non mais bien sûr.
Bien malin qui peut dire comment aurait été Rocard en période d'état d'urgence
bien sûr,
et de menace terroriste.
En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont orthogonaux avec Montebourg, c'est-à-dire que, en fait, là où Valls est libéral en matière d'économie, il est illibéral en matière de liberté publique, de politique de sécurité. C'est quelqu'un qui est dans une posture autoritaire très forte et dans une posture libérale sur l'économie. Montebourg, c'est exactement l'inverse. Il veut reprendre la main en termes de politique économique, reprendre la main en termes de souveraineté européenne et l'avocat qu'il est commence à tenir et continue à tenir un discours de défense des libertés publiques. Je pense que sera-t-il soutenu par Christiane Taubira comme il l'a été en 2011 ? C'est une hypothèse qui est forte. Sera-t-il soutenu par Pierre Joxe comme il a été en 2011 ? C'est assez probable. Donc il incarnera aussi cette gauche-là qui a ce rapport-là à la justice et qui ne supporte pas la façon dont Manuel Valls a eu de mener une politique au ministère de l'Intérieur en particulier. Donc là, on
et
a vraiment...
Et l'état d'urgence permanent.
Et l'état d'urgence permanent.
C'est un problème de liberté publique, évident.
Absolument. Donc là, on a vraiment une opposition frontale entre les deux. S'ajoute à ça, pour complexifier le tout, si jamais il y a Payon, la question de l'Europe, sur laquelle il y a un vrai désaccord entre Payon et Montebourg sur l'Europe. Mais ce désaccord persiste-t-il encore? Je veux dire, après tout, Laurent Fabius aussi a appelé à voter non au TCE. On l'a retrouvé ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Ça n'a pas rendu la chose impossible. Donc, voyons plus tard pour ce qu'il en est, mais il y a déjà cette opposition qui me semble extraordinairement puissante.
Ludivine, est-ce que vous voyez, vous, plusieurs gauches distinctes se dessiner dans cette compétition que va être la primaire de la belle alliance populaire? Ou bien est-ce que vous considérez que c'est exactement les mêmes?
Mais non, c'est pas exactement les mêmes. Je suis pas non plus complètement idiote au point de considérer.
Bah, j'ai pas dit ça.
Non, mais ou alors sur la question du regard noir. Voilà, on a quand même un problème de vocabulaire qui, à mon avis, va au-delà de la sémantique. C'est-à-dire que moi, je demande très sincèrement, la question est ouverte, qu'est-ce qu'il y a de gauche chez Manuel Valls? Qu'est-ce qu'il y a de gauche chez Emmanuel Macron? Je pose cette question et j'aimerais bien qu'on me réponde, parce que moi, je n'ai vu que des mesures vraiment antisociales. Voilà. Dans ces gouvernements successifs, qu'il s'agisse du gouvernement Hérault, dont Arnaud Montebourg était membre, il faut le rappeler, ou du gouvernement Valls. Et que je sache, moi, j'ai des petits critères comme ça, peut-être un peu basiques, mais je n'ai pas entendu beaucoup Arnaud Montebourg critiquer la loi qui a mobilisé des millions de personnes, à savoir la loi travail. Il me semble qu'au contraire, un fondement de sa rhétorique politique, par-delà des choses qui par exemple, sur des nationalisations ponctuelles qui sont très vite apparues à tout le PS comme absolument désuet, etc. Mais je n'entends dans sa rhétorique politique que la notion de compétitivité des entreprises. D'ailleurs, il a aussi beaucoup axé ces derniers temps son discours sur cette question de la compétitivité des entreprises.
Et est-ce que dans cette primaire, par exemple, est-ce que Gérard Filoche, par exemple, pourrait incarner, pour vous, justement, des idées de gauche au sein de cette primaire? Je ne parle pas de ceux qui sont dehors.
Si je reprends mon critère du rapport à la loi travail, je veux dire, Gérard Filoche, il a eu un argumentaire extrêmement précis contre la loi travail. Il a été un pilier d'une forme de mobilisation. Voilà, je ne comprends pas ce qu'il fait encore au PS, parce que pour moi, ça n'a pas de sens d'être dans un parti qui porte ses contre-réformes, etc. Juste, quand même, c'est une parenthèse historique, mais vous me permettez, c'est une déformation professionnelle, mais penser qu'il y a un rapport entre l'autogestion et le Michel Rocard du gouvernement de 1988-89, quand c'est Michel Rocard qui a envoyé la police réprimer assez violemment des manifestations d'infirmiers première. Voilà, je pense pas qu'on
puisse... C'est lui qui a fait la Nouvelle-Calédonie, qui a fait le...
Non, mais l'autogestion, en 68, ça n'a vraiment rien à voir avec la politique qui a été menée.
Bien plus tôt que ça, même.
Mais où est l'autogestion?
Le PSA, c'est bien avant mai 68.
Oui, mais quand Michel Rocard a été au pouvoir comme Premier ministre de François Mitterrand, il a mené une politique qui était absolument à l'opposé de toute idée d'autogestion, au contraire.
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire à l'opposé. Je pense qu'elle était... c'était le même homme qui avait une histoire, qui avait certes évolué, mais qui n'avait pas renié un certain nombre de grands principes politiques qui l'ont animé jusqu'à la fin de sa vie.
Philippe Manière.
Non, moi, ce qui me frappe dans ce que vient de dire Ludivine, c'est que je crois qu'il y a... Je ne veux pas parler d'ignorance au sens de la méconnaissance, mais l'ignorance au sens de l'ignorance délibérée. Il y a l'ignorance dans ce que vous venez de nous dire, Ludivine, de quelque chose qui me semble quand même important, qui est l'état du pays. Ce n'est pas la peine d'être de droite pour penser que de temps en temps, il faut faire un certain nombre de choses qui ne plaisent pas au peuple. Je vais prendre quelques exemples. L'Allemagne, Schröder. La Nouvelle-Zélande, Douglas. Göran Persson en Suède. Le Canada, ça se discute, mais ce n'était pas la droite qui a fait les réformes. Ce sont des réformes qui ont été très considérables, qui ont été portées par des gouvernements de gauche,
mais absolument de gauche.
Douglas, c'était la gauche, Persson, c'était la gauche, Schröder, c'était la gauche. Ah non, mais si quand les gens se réclament de gauche, vous vous autorisez à dire qu'ils ne sont pas de gauche parce que leur programme.
Mais ce qui compte, c'est la politique.
C'est différent,
Ludivine,
mais ce sont des gens qui ont été élus par l'électorat de gauche dans leur pays respectif avec des programmes que vous décrivez comme antisociaux, ce qui est votre droit le plus strict, et qui de fait n'était pas là pour faire des cadeaux, parce que l'analyse que faisaient ces gouvernements de gauche, mais responsables, c'était que l'état du pays requérait des réformes qui justifiaient pendant un temps au moins qu'on prenne des mesures qui n'étaient pas câlines. Je ne dis pas qu'ils avaient tort ou qu'ils avaient raison, je dis qu'on peut être de gauche et suggérer ce type de réformes qui vous font horreur, ce que je comprends tout à fait, c'est votre droit le plus strict. Mais on ne peut pas dire que dès lors qu'on organise ce que vous appelez la régression sociale, c'est-à-dire que dès lors qu'en tout cas on se pose la question de savoir si on a encore les moyens d'accorder par exemple les CDI, par exemple des allocations, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis que quelqu'un de gauche peut tout à fait dire, je fais l'analyse que dans l'intérêt du pays et du peuple de gauche et au nom du progrès que nous ne pourrons tenir qu'à terme, alors pendant une certaine période, il faut faire des mesures qui ne sont pas classiquement des mesures de gauche parce qu'elles ne consistent pas en cadeaux au peuple. C'est ce qu'ont fait plein de gouvernements de gauche et on considère avec le recul, évidemment vous me direz que l'historienne ne trouve pas son compte dans ce recul qui n'est pas suffisant, mais on considère avec le recul que tous ces gens de gauche qui ont fait des réformes que vous trouvez antisociales ont pratiquement sauvé leur pays. En tout cas, les pays en question aujourd'hui vont bien mieux qu'avant et bien mieux que le nôtre. Donc tout ça, ce sont des faits.
Parlez-en, par exemple en Allemagne, pour reprendre le cas de Schröder, on pourrait prendre l'exemple évidemment de Tony Blair. Parlez-en.
5% de chômage.
Mais qu'est-ce que ça veut dire aller contre le pain, prendre des mesures qui apparemment ne plaisent pas au peuple, mais pour les sauver en homme providentiel. Enfin, parlez-en quand même aux chômeurs après les réformes Hartz IV, en particulier, hein, qui ont balayé tous les droits au chômage.
C'est donc un des peu gens exagéré, qui se trouvent tous les droits. Hein.
On peut aussi évoquer toujours dans ces lois Hart, l'importance d'une institutionnalisation de la précarité qui masque ô combien le chômage, mais avec des gens qui se retrouvent avec des, ce qu'on appelle en Allemagne, vous le savez mieux que moi, des Ein-Euro-Job, voilà, je pense que c'est à peine le besoin de traduire.
Et
donc, au profit de qui? Qui profite? Alors, vous pourrez toujours me dire que du coup, la compétition, la compétitivité des entreprises allemandes, des taux bofix, etc. Mais qui en profite?
Ni les salariés.
Le taux de chômage est un leurre, puisque, en fait, il masque la précarité éhontée qu'on trouve dans ces pays. Et par ailleurs, donc, ça n'aide ni ces jeunes précaires, et aussi des gens qui sont moins jeunes et qui le sont tout autant, ni les chômeurs, ni les salariés des entreprises prétendument extrêmement compétitives qui souffrent de toutes sortes de pathologies liée au surstress au travail et justement à une concurrence absolument exacerbée. Donc, je ne vois pas en quoi ce sont des mesures qui sont antipopulaires mais qui, in fine, satisfont le bien de l'intérêt général ou de l'intérêt du peuple.
C'est un débat qui va avoir lieu ou qui peut avoir lieu durant cette primaire à gauche. Je pense que les positions respectives d'Arnaud Montebourg d'un côté et de Manuel Valls de l'autre sur les lois Hartz III et Hartz IV ne sont pas du tout les mêmes. Donc ce débat débat, il va avoir lieu. En revanche,
et c'est très bien.
Et absolument, il va avoir lieu. Et c'est très bien. Et en revanche, je ne crois pas du tout qu'il soit possible d'excommunier de la gauche une partie de la gauche avec laquelle on n'est pas d'accord en disant qu'elle n'est pas de gauche. Je pense que rappeler à cette partie de la gauche qu'on considère pas de gauche, ce qui est mon cas, ça se fait à travers des élections, à travers des victoires électorales.
On c'est pour ça. Envie de voter
eh bien,
pour vos élections.
Vous n'avez plus envie. Certain nombre d'électeurs de gauche vont avoir envie de rappeler à Manuel Valls que
c'est
l'on ne veut pas.
C'est trop tard. Non, il a gouverné.
Eh bien, moi, je ne pense que c'est pas trop tard.
Ou à Montebourg.
Ou inversement.
Il a aussi gouverné. C'est trop tard.
Personnellement, je dis que j'aurais plutôt envie de rappeler à Manuel Valls que je n'ai pas envie de Hartz-Drei et de Hartz-Fir en France. Et donc, ça me conduira plutôt à faire d'autres choix que celui de Manuel Valls pour cette primaire. Donc, ce débat aura lieu. C'est un vrai débat politique intellectuel.
Et il est nécessaire dans la gauche française.
Pourquoi s'en plaindre ? Enfin, ce débat va avoir lieu. Et maintenant, on nous dit :« Mais non, c'est trop tard. On est fatigué. On veut plus. »
Il va avoir lieu en 3 semaines.
C'est pas possible. Il peut y avoir du débat, mais moi, je ne fais que débattre et que participer à des débats dans toutes sortes de cadres qui sont ô combien politiques.
Mais là, on va voter en plus.
Mais pour moi, voilà, les petites querelles de personnes entre un Macron, un Valls, un Macron.
Là, on est vraiment sur les idées. On est quand même sur les idées, Ludivine Martini.
Vous-même, vous l'avez dit, Ludivine, que c'était des querelles de programme. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais vous nous avez dit que vous désapprouvez.
En même temps, moi, je vois pas très bien vu pour l'instant la différence entre le programme de Valls, dont
c'est
pas un danger, et le programme, si vous permettez, et le programme de Macron. J'aimerais bien que vous me l'expliquiez, par exemple. Entre Valls et Macron, quelle est la légitimité du fait qu'il y ait deux candidatures de ce type ? Voilà, si vous me dites que ce n'est pas des querelles de personnes, je veux bien. Ce n'est pas du tout une question de carriérisme politique, pas du tout, voyons.
Par rapport à ce que vous décrivez finalement les uns et les autres, effectivement un débat extrêmement intéressant et clivé, c'est-à-dire ok, le débat a lieu à l'occasion de la primaire choisit son candidat qui va devoir ensuite rassembler son camp, là on se dit quand même ça va être extrêmement compliqué, autant par rapport à la primaire de droite, on pouvait voir quand même des nuances parfois assez fortes entre les différents candidats, mais on voit bien que c'était pas si compliqué que ça finalement de trouver un corpus commun. À gauche, bon courage, non ?
Mais à gauche, le problème, c'est pas, c'est surtout du fait que après la primaire, une fois déroulée, une fois que quelqu'un sera le candidat issu de cette primaire, il se trouvera pris de part et d'autre par deux autres candidatures, celle de Mélenchon et celle de Macron. C'est pour ça que c'est un drame absolu. C'est pour ça qu'avec quelques-uns, on a lancé une pétition en début de semaine avec quelques chercheurs en sciences sociales pour appeler tout le monde à la raison en disant mais c'est pas possible. Le seul moyen de trancher ça et le seul moyen de donner une chance pour la gauche, pour un candidat de gauche, quelle que soit cette gauche, celle qu'on aime, celle qu'on n'aime pas, mais au moins qu'il y ait un candidat de gauche pour qu'elle soit cette gauche au deuxième tour de l'élection présidentielle, c'est que messieurs Mélenchon et messieurs Macron acceptent cette primaire. Ils ne veulent pas l'entendre pour des raisons diverses, mais ils ne veulent pas l'entendre. Ils porteront lourdement la responsabilité de l'échec de la gauche au premier tour de l'élection présidentielle. C'est ce qui se profile le plus certainement.
Excusez-moi, mais il n'y a vraiment aucun rapport pour le coup. Encore une fois, je tiens à rappeler cette prémisse personnelle qui n'intéresse que moi, mais que je ne vais pas voter Mélenchon. Mais en tout cas, je pense qu'il n'y a vraiment aucun rapport pour le coup entre Mélenchon et le PS. Voilà,
Mélenchon a été ministre socialiste, Mélenchon a été sénateur socialiste, il a passé 30 ans de sa vie au Parti socialiste, donc le rapport, il est quand même, il saute aux yeux.
Il a eu cette... Voilà, ce petit courage politique de quitter le Parti Socialiste à un moment où il n'en pouvait plus de ce parti.
Et la grande absence de courage
et
de
donc,
ne pas se présenter à la primaire.
On peut tout à fait... Mais ce n'est pas une question de courage, c'est une question de légitimité. On ne se présente pas à la primaire d'un parti dont on récuse...
S'il avait du courage, il pensait qu'il la gagnerait.
Il récuse les fondements politiques du Parti Socialiste, donc il ne participe pas à sa primaire. Et ça me semble une évidence. Voilà, ne nous enfermez pas dans cette primaire qui n'a eu de légitimité qu'à l'échelle du Parti Socialiste.
Voilà, qui n'a pas encore eu lieu, hein, d'ailleurs. Rappelons-le, cette primaire. Philippe Magnard, juste pour conclure.
Oui, non brièvement. Alors, on vient de voir que c'était un débat très intense à l'intérieur de la gauche. Ce qui est je suis pas suspect. On l'a dit à plusieurs reprises au fil des émissions passées. Je trouve que la primaire, c'est une chose formidable, à droite comme à gauche. Ce qu'on peut regretter, c'est que pour trancher ce débat, on aura 3 semaines. C'est-à-dire que entre le début de la campagne qui pourra pas commencer avant la trêve des confiseurs,
la faute à François Hollande,
et l'élection qui aura lieu je crois le 20 et 27 janvier,
voilà, c'est ça.
Il se passe 3 semaines. Donc 3 semaines pour trancher entre une forme de gauche irénique, révolutionnaire, romantique, appelez-la comme vous voulez, et une gauche réaliste, pragmatique ou résignée, appelez-la comme vous voulez, c'est quand même un peu dommage.
Mais ça c'est la faute de François Hollande.
C'est lui qui
a décalé le calendrier.
Mais peut-être qu'à travers les discussions que nous avons le vendredi soir, nous allons aider justement la gauche à trancher ces différentes questions. Et bien sûr qu'il nous écoutent, Olivier Montigny. Merci beaucoup en tout cas à tous les
Merci.
Trois,
Merci.
À Sylvain Bourmeau et à Philippe Manière d'avoir participé à cette discussion Merci. Que vous pouvez poursuivre si vous le souhaitez. Vous pouvez nous écrire en allant sur notre site, petit formulaire, vous écrivez à Du Grain à Moudre. Le fil Twitter également, c'est un moyen de commenter ce que vous entendez, de faire part de vos opinions. Un grand merci à l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer, Isolte Sica, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Jacques Azubert. On se retrouve lundi à 18h20 pour poser la question suivante. Lutte contre la pollution, à qui envoyer la facture ? Parlerons d'éthique de responsabilité en matière d'environnement.